sur mesopinions.com. Victime de pervers narcissiques, exigeons des mesures contre ces prédateurs récidivistes. Bien évidemment, nous inscrirons sur notre page Facebook toutes ces références. Merci Jean-Jacques pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Courage à vous dans le combat qui est le vôtre aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à réorienter des gens vers la libre antenne s'ils ont envie de raconter aussi leur histoire. Hein, d'accord ?
Avec plaisir.
Je vous souhaite une bonne soirée, Jean-Jacques. Bonsoir.
Merci, belle soirée. Au revoir.
Il est minuit sur Europe 1. Et c'est un dernier tour de l'info avec vous, Maël Hassani. Bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Une soixantaine de gendarmes et un hélicoptère mobilisés pour retrouver une mère de famille en Haute-Savoie. Ces trois enfants retrouvés morts dans leur maison située à Taninge en Haute-Savoie. Ils sont âgés de 2, 11 et 13 ans et ils ont été tués à l'arme blanche. La femme recherchée est décrite comme dépressive. Elle aurait laissé une lettre avant de prendre la fuite. Une enquête de flagrance est ouverte pour homicide volontaire. Les violences antisémites survenues à Amsterdam ces derniers jours pourraient-elles se produire en France ? Bruno Retailleau le redoute. C'est ce qu'il déclare ce mardi soir sur le plateau de TF1. Le ministre de l'Intérieur souligne qu'un dispositif de sécurité important sera déployé jeudi soir au Stade de France pour protéger les supporters israéliens présents lors de la rencontre France-Israël. Match qui ne sera ni annulé ni délocalisé. La France ne se soumet pas aux semeurs de haine, affirme Bruno Retailleau. Inquiétude dès ce mercredi dans les rues de Paris. La préfecture de police autorise parallèlement un gala intitulé Israel is Forever, organisé par une association qui se revendique sioniste, et une manifestation contre cet événement à l'appel de plusieurs syndicats et partis de gauche et d'extrême gauche, et tout cela à la veille du match de football France-Israël. Un nouvel incident cet après-midi lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée. Le député LFI Sébastien Delogus en est pris verbalement à la députée macroniste Aurore Berger. Vous finirez dans les poubelles de l'histoire, a lancé l'élu insoumis après une prise de parole de l'ancienne ministre au sujet des agressions antisémites survenues à Amsterdam. Direction le Sénat pour le projet de loi de finances, après le rejet de la partie recette ce mardi soir à l'Assemblée nationale. Texte largement remanié par les députés du Nouveau Front Populaire, les élus macronistes de droite et du RN ont voté contre. C'est la version initiale, celle du gouvernement, qui sera étudiée au Palais du Luxembourg. Pas d'accord entre syndicats de la fonction publique à ce stade sur les modalités et le calendrier de leur futur mouvement de grève. Une nouvelle réunion aura lieu jeudi. Les organisations ont annoncé une nouvelle mobilisation jeudi dernier à l'issue d'une réunion avec le ministre de la fonction publique Guillaume Kasbarian. Parmi les points de désaccord, la volonté du gouvernement de faire passer à 3 au lieu d'1 le nombre de jours de carence en cas d'arrêt maladie dans le public. De nombreuses écoles fermées demain en Espagne, notamment dans la région de Valence, alors que les autorités attendent de nouvelles pluies torrentielles ce mercredi. Certaines parties de Valence, mais aussi de Catalogne, d'Andalousie et des îles Baléares sont placées en alerte orange pour au moins 24 heures. Fin octobre, des inondations dévastatrices dans le sud-est de l'Espagne ont fait plus de 200 morts. Les rémunérations totales des patrons du CAC 40 atteignaient en moyenne 7,1 millions d'euros par an l'année dernière, une hausse de 6% par rapport à 2022. C'est le résultat d'une étude du cabinet Proxinvest publiée ce mardi. Les dirigeants gagnent en moyenne 95 fois plus que leurs salariés. Et puis il y a 38 ans, jour pour jour, un immense artiste français nous quittait, Thierry Leluron, décédé après plusieurs mois de lutte contre la maladie, connu pour ses imitations mais aussi pour ses chansons comme « Nous nous reverrons » sorti en 1980.
Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous un jour, n'importe où, je promets que j'y serai sans faute. À Noël comme à la Pentecôte, en Laponie comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe et je fais un bien les choses. Surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Si Dieu le veut.
Toute une époque, hein, mon cher Maël.
Et très belle chanson de Thierry Luluron, qu'on connaît beaucoup évidemment pour les sketchs et les imitations, mais qui était aussi un immense chanteur, comme on a pu l'entendre.
Il avait de toute façon un talent fou, ce garçon.
Et vous connaissez son histoire un peu particulière avec Europe 1 ?
Non.
Eh bien, le faux mariage avec Coluche
bien sûr.
Était organisé à Europe 1. Laurent Pelé, qui est l'encyclopédie musicale et aussi de toute façon sur l'histoire d'Europe 1, nous rappelle qu'après le faux mariage sur les Champs-Élysées, c'est à Europe 1 qu'il y a une fête toute la nuit,
oui.
Dans le studio Pyramide à l'époque, rue François 1er.
Mm-hmm.
Donc voilà, ce sont des petites anecdotes qui enrichissent tellement et qui veulent dire tellement de la richesse de notre station. On en est très fiers.
Oui, et puis qui racontent l'histoire d'Europe 1 comme ayant été toujours une radio libre, finalement.
Absolument.
Libre dans le ton, libre, parce que vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, vous feriez ce mariage-là, ça pourrait causer plein de polémiques et tout, alors qu'à l'époque, tout le monde se marrait, tout le monde aimait la dérision. On évoque aujourd'hui des gens comme Coluche, comme le Luron, comme Pierre Desproges, qui aujourd'hui ne pourraient plus déconner comme ils le faisaient à l'époque. Hein. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. À l'époque, vraiment, on se marrait de tout. En tout cas, moi, c'est le souvenir que j'en garde.
Voilà, et ce mariage, ce faux mariage, en est un exemple.
Et puis Coluche, qui était animateur Europe 1.
Bien sûr.
Aussi.
Mais cette idée du faux mariage est partie de l'émission de Coluche sur Europe 1.
Hein. Exactement.
C'était en septembre 85.
Merci beaucoup, mon cher Maël. On vous retrouve demain soir, bien évidemment. Dormez bien et faites de beaux rêves.
À demain.
À demain.
Europe 1.
La Libre Antenne.
22h30, 1h. Olivier Delacroix.
Passé de 8 minutes, vous êtes sur Europe 1, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez composer le 01 80 20 39 21. Je suis là pour vous écouter et à tout moment, vous pouvez le décrocher ce téléphone ou nous écrire vos SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit, écran lettres majuscules, suivi d'un espace. Pascal Pro, c'est deux rendez-vous par jour sur Europe 1. D'abord avec l'heure des pros de 9h à 9h30. En co-diffusion avec CNews, et puis ensuite de 11h à 13h pour vous donner la parole. De 11h à 13h, c'est Pascal Pro et vous. Donc si vous voulez participer à l'émission de Pascal Pro, eh bien n'hésitez pas, vous faites le 01 80 20 39 21, vous vous laissez guider par le petit disque d'accueil et vous pouvez donc vous inscrire et l'équipe de Pascal vous rappellera. Pascal Pro, donc c'est deux rendez-vous par jour sur Europe 1, l'heure des pros de 9h à 9h30 et puis ensuite sur Europe 1 de 11h à 13h. Nous accueillons Vincent maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Alors Vincent, nous avons été obligés de rendre l'antenne faute de temps hier soir où vous nous avez raconter votre histoire, en tout cas que vous n'avez pas pu finir. En gros, vous nous avez conté une soustraction de mineurs, puisque votre fils a été enlevé par votre femme, qui est repartie à l'étranger. Une femme que vous aviez épousée, qui était d'origine équatorienne, pays où, depuis vos 20 ans, vous aimiez aller. Et puis, vous avez fait la rencontre de cette femme. Et puis, vous vous êtes mariés tous les deux. Et puis, pris la décision de rentrer donc en France avec la fille de votre femme, c'est toujours votre femme, hein, puisque le divorce n'est pas prononcé.
Le divorce est prononcé en France, mais il n'est pas prononcé en Équateur.
Donc c'est votre ex-femme. On va parler de votre ex-femme.
En France.
En France. vous nous racontiez hier soir que l'adaptation de votre femme, de votre ex-femme et de sa fille de 20 ans, ici en France, avait eu beaucoup de mal à se faire, puisque après avoir passé un an en faculté afin d'apprendre moins à parler français, sa fille ayant elle aussi appris le français, tout ça à travers des enseignements, bien évidemment, que vous payez, vous, puisque vous êtes éducateur, que vous gérez des lieux d'accueil. Et puis, ça a tourné un peu vinaigre entre vous. Alors, votre fils est né, bien évidemment, votre fils est né de cette union. Il avait 7 ans et demi quand, en fait, cette dame va repartir en Équateur. Mais votre fils, pour votre fils, vous nous racontiez hier que l'adaptation, c'était vraiment très bien réalisé, que votre fils avait des copains, que lui... ça c'est la magie. Les enfants mettent de la magie partout, donc il s'adapte. Et puis, rappelez-moi le prénom de votre fils.
Matteo.
Donc Matteo, lui...
Matteo avec un H à la française.
Voilà, Matteo, lui, pour lui, ça baignait. Vous habitez là, à Vincennes, dans une grande résidence. Il avait des copains. À l'école, il avait des copains. Tout se passait très bien. Et puis, ça se passait de moins en moins bien avec votre ex-femme, qui a tout de même un jour porté plainte contre vous. Vous vous êtes retrouvé une première fois, c'est ce que vous nous avez raconté hier soir, à faire 48 heures de garde à vue. Vous admettez une prise de bec entre vous, mais votre femme a donc porté plainte contre vous au commissariat de Vincennes pour lui avoir mis, soi-disant, une claque, ce que vous niez fermement. Vous lui avez effleuré la joue avec votre doigt, juste pour lui dire que vous la touchiez, simplement. Enfin, je suppose que c'était une défiance dont vous, finalement, aux lourdes conséquences, puisque ce doigt sur la joue s'est transformé en coup. Vous nous racontiez avoir été accueilli par un OPJ pourtant visiblement formé à ces guerres de couple, mais qui vous a gardé 48 heures en garde à vous et qui vous avait une première fois déjà menacé en disant que s'il vous revoyait, vous alliez ramasser. Je reprends.
Ouais, enfin, les termes, c'est pas exactement ça. C'est qu'en fin de garde à vue et à la levée de la garde à vue, au bout de 48 heures, donc une fois que le procureur a décidé de pas donner suite, au moment de la remise de mes essais personnels, il m'a dit : « Écoutez, monsieur, si je vous revois, je vous ferai manger. »
Je vous ferai manger, oui. Bon, vous allez ramasser.
Vous allez manger si je vous revois.
Bon, voilà. C'est encore pire, en fait. Vous allez manger. Voilà. Bon, à peu près un an se passe. Vous avouez hier soir avoir une certaine rancœur par rapport à ce qui s'était passé. Vous aviez passé 2 jours en garde à vue. Même si le soir de votre retour à la maison, vous dites avoir été très surpris par l'attitude de votre femme qui était très douce. Vous racontez même hier un rapport sexuel plutôt doux, plutôt qui devrait être une sorte de réconciliation. Mais finalement, pas du tout, puisque je passe très vite sur le résumé de ce que vous nous avez raconté hier soir, mais ni la fille de votre ex-femme qui a 20 ans, ni votre ex-femme ne vont jamais s'habituer à la vie en France, ayant, je reprends vos dires, ayant une idée de la France comme étant un peu le on va dire quoi, le Club Med, avec des allocations, en tout cas la facilité de vivre sans être obligé de beaucoup travailler. Or, vous avez tenté de leur expliquer que ça se passait pas vraiment comme ça ici et que il fallait tout de même travailler pour avoir des droits, si bien que votre femme a décidé de s'envoler pour l'Équateur, mais avec votre fils qu'elle a enlevé. Et nous en étions restés là hier soir. Avant l'incident, en tout cas le fait marquant qu'elle reprenne l'avion et qu'elle enlève votre fils, vous évoquiez déjà une séparation où vous aviez votre fils en garde alternée. Mais vous avez évoqué hier soir une inquiétude de votre fils qui ne voulait pas vraiment retourner avec les copines de maman, comme vous nous le racontiez hier, et que Matteo sentait qu'il y avait quelque chose de, qui se préparait sans vous l'avoir vraiment dit avec ces mots. Vous avez quand même fait une deuxième garde à vue avant tout ça, puisque votre femme vous a à nouveau accusé avant la séparation d'avoir pris des coups dans le lit conjugal, alors que vous rêviez, c'est ce que vous nous avez dit, vous rêviez d'une énième bagarre entre vous.
Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'elle a, elle avait préparé le terrain et elle a revu le même OPJ pour évoquer des violences psychologiques cette fois. Et j'ai été convoqué en audience par l'OPJ qui m'a appelé à mon boulot pour me convoquer pour des faits de violences psychologiques.
D'accord. Alors cet OPJ, vous avez dit hier soir, bon, il vous porte pas vraiment dans votre, dans son cœur. Hein. Il vous a recollé en garde à vue. Mais ce coup-ci, le procureur a interrompu la garde à vue au bout de 3-4 heures, c'est ça ?
Ouais, je suis resté que 3 heures.
D'accord, mais vous avez été relâché. Ouais. Au moment où votre ex-femme donc, repart en Équateur, elle emmène donc Matteo avec elle, bien évidemment sa fille, et vous réalisez donc ce qui est en train de se passer, vous retournez au commissariat de Vincennes, où ce même OPJ refuse de prendre votre plainte.
En fait, il y a eu, ça s'est passé le week-end de Pâques d'avril 2023. Mm-hmm. Le samedi soir, donc, elle m'a dit qu'elle souhaitait emmener Matteo chez des copines pour une fête et qu'elle reviendrait le lendemain parce que Matteo avait le lendemain un anniversaire prévu avec un copain de la résidence.
Oui.
Donc, elle avait dit à tout le monde dans la résidence qu'elle serait là le dimanche, etc. Donc, moi, le samedi, je la laisse partir avec Matteo. Matteo me dit, papa, j'ai pas trop envie d'y aller. J'aime pas trop aller voir les amis de maman parce que je suis timide et je connais pas. Papa, j'ai pas envie d'y aller. Et moi, je dis à mon fils, mais Matteo, tu vas y aller la semaine d'avant, tu étais avec moi en week-end chez les cousins. Si tu y vas pas, maman, elle va me faire des problèmes et elle m'empêchera de t'emmener chez mamie après. Voilà, donc le jour de l'enlèvement, je l'avais emmené le matin au judo, je faisais ses devoirs avec lui l'après-midi et elle est arrivée dans l'après-midi en disant « Ouais, les devoirs, c'est pas important, machin. » Elle a pris Matteo dans la chambre d'amis qu'elle occupait à ce moment-là, puisqu'on faisait chambre à part depuis à peu près un mois. Et elle a emmené Matteo de force qui pleurait, qui voulait pas partir. Voilà. Et moi, j'ai pas eu le
Vous portez une grande culpabilité de ce moment-là. Hein. Hier soir, je l'ai senti. Vous portez une grande culpabilité de ce moment-là. Là, vous m'avez dit hier soir, je n'ai pas été capable de le protéger, de, voilà, je le vois se retourner, me regarder, et après vous ne l'avez jamais revu en fait, Matteo.
Ouais, j'ai pas su dire non, j'ai pas su le prendre dans mes bras et lui dire ok, tu veux pas y aller, ben tu vas rester avec papa, quoi.
Mais c'était compliqué de prendre cette décision, non ?
Oui, c'était compliqué parce que pour moi, je m'attendais pas du tout à l'enlèvement à ce moment-là, quoi.
Vous n'aviez pas
pour
remarqué
moi, effectivement, elle l'emmenait, à une soirée et revenait le lendemain, quoi.
D'accord. Vous n'avez pas remarqué qu'elle avait pris des habits. Vous n'avez pas remarqué qu'elle avait emmené des choses. Ça, c'est vous. À aucun moment, ça ne vous est passé par la tête qu'elle pouvait faire quelque chose comme ça.
Ah non, parce qu'elle avait laissé toutes les affaires dans la chambre.
Mmh. D'accord.
Elle avait tout calculé. Je pense qu'elle avait laissé des affaires et emmené des sacs chez des gens avant, qu'elle a eu des complicités. Et rien ne m'a mis la puce à l'oreille sur l'enlèvement. On était en pleine période scolaire. C'était pas les vacances. Je savais que ma belle-fille devait partir en vacances en Équateur pendant les vacances de Pâques. Donc là, on était le week-end du 8 avril. Les vacances de Pâques, c'était 15 jours après.
Mm-hmm.
C'est autour de mi-avril. Donc non, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai vu mon fils partir le samedi soir et j'étais persuadé que mon fils reviendrait le dimanche, quoi.
D'accord.
Donc, et c'est le dimanche soir où j'ai commencé à paniquer. Là, j'étais au commissariat. Mm-hmm. J'ai voulu déposer, signaler la situation et déposer une plainte. Les policiers m'ont dit bah non, écoutez, il y a pas de plainte. Pour l'instant, vous pouvez mettre une main courante. Si vous voulez, on va essayer de l'appeler sur son téléphone. Donc, ils ont essayé d'appeler sur le téléphone, mais ils sont tombés sur messagerie. J'ai posé une première main courante. Je suis tombé sur l'OPJ de permanence, qui est le même, qui m'avait mis en garde à vue, qui m'a dit non, non, il y a pas de plainte. Mettez seulement une main courante. Donc, j'y suis allé le dimanche soir à sur le coup des 21h. J'y suis retourné le dimanche soir à minuit, parce que j'avais pas de nouvelles.
Oui.
Toujours main courante. Et j'y suis retourné le lundi où j'ai fait face à la responsable du service de protection de la famille et de l'enfance de Vincennes pour porter une plainte pour soustraction de mineurs. Et elle a interdit au brigadier de prendre ma plainte en disant « Non, il est hors de question que vous preniez la plainte, vous ne prendrez pas de plainte, c'est qu'une main courante pour abandon du domicile familial, il n'y aura pas de plainte de poser, etc. »
Cette même OPJ, hein.
J'ai eu l'OPJ qui m'a mis en garde à vue, qui a refusé la plainte, et sa chef de service, qui ne fait plus partie du commissariat, qui a été muté depuis. Mmh. Voilà.
Ces deux gardiens de la paix, en tout cas ces deux OPJ, n'avaient absolument pas le droit de refuser votre plainte. Vous le savez, ça, aujourd'hui.
Bah oui, je le sais. Non seulement ils ont refusé, mais ils ont invectivé les brigadiers et leurs subalternes de ne pas prendre de plainte, quoi. Mmh. Donc il y avait une prise de parti où je sais pas, quasiment pour moi presque une complicité d'enlèvement de.
Mais clairement, ils vous prenaient pour un homme violent. Vous savez, vous m'avez dit hier soir, et encore une fois, j'essaie toujours de décrypter un peu. J'ai tout un tas de choses qui me permet de voir à qui j'ai affaire. Mais vous avez été très franc hier soir. Vous avez dit j'ai un côté très, je sais plus comment vous me l'avez dit, mais.
Rigide.
Rigide. Vous et je pense qu'ils vous ont pris pour un homme violent. En fait, ils ont. Je pense que votre côté, vous voyez, il faut que les choses soient en ordre. Il faut respecter les règles. Chez eux, ça a été pris comme de la violence, alors que ça n'a rien de violent de vouloir dîner à l'heure, que toute la famille soit à table, que vous nous expliquez que c'était à travers des détails comme ça que. Finalement, il y a eu pas mal de prises de bec à l'époque.
Oui.
Depuis, qu'est-ce qui s'est passé, Vincent ?
Alors, depuis, j'ai saisi le service d'entraide international du ministère de la Justice en France pour demander le retour de mon fils auprès des autorités équatoriennes.
Mmh.
Donc le dossier a été fait très vite. J'ai porté plainte par mon avocat directement auprès du procureur et je suis passé par le commissariat de Fontenay-sous-Bois pour déposer une plainte. J'ai saisi le service d'entraide qui a demandé le retour de l'enfant auprès des autorités équatoriennes. Les autorités équatoriennes ont refusé d'ouvrir le dossier. Le service de la défense publique, du défenseur public équatorien de la commune de ma femme a refusé d'ouvrir le dossier.
Pourquoi ?
Car la sœur de ma femme est avocate.
Oui.
Et était conseiller municipal dans sa commune. Elle a redéposé une plainte pour violence conjugale en Équateur à mon encontre.
Ce qui fait que si vous allez en Équateur aujourd'hui, vous pouvez être emprisonné.
Non, j'y étais, j'ai pas été emprisonné, mais j'ai suis retourné trois fois depuis.
Ah bah, racontez-moi.
Je suis retourné la première fois pour essayer de voir mon fils en fin août 2023. Ma femme avait pris et sa sœur des mesures à mon encontre d'éloignement pour violence conjugale. Mm-hmm. Qui ne m'ont pas permis d'approcher mon fils, j'ai pas pu le voir.
Vous n'avez pas vu du tout, même de loin, non ?
Même de loin, j'ai pas pu le voir. J'étais à l'école, j'ai demandé à le voir. J'ai déposé des affaires à l'école, j'ai déposé des cadeaux à l'école. J'ai été un centre qui s'appelle le service de justice de proximité cantonale pour pouvoir voir mon fils. J'ai donné la copie du jugement français qui me confiait la garde de mon fils. Mmh. Et qui ordonnait le retour de mon fils dans un délai de 10 jours. Mmh. où étaient indiqués mes revenus. Et j'avais un avocat équatorien et la sœur de ma femme, alors que j'étais au service municipal de protection, est venue me menacer en disant que si je continuais à faire des démarches ou si je continuais à essayer de voir mon fils, elle me ferait envoyer en prison.
D'accord. Est-ce que vous avez pris ces menaces au sérieux ?
Oui, parce que j'ai eu mes avocats équatoriens qui m'ont dit attention, les choses montent en pression, ils sont capables de vous de faire passer une interdiction de sortie de territoire. Donc j'étais avec ma mère en Équateur et mes avocats m'ont conseillé de quitter l'Équateur.
Carrément.
Et j'ai pris peur et effectivement j'ai pas continué à insister, j'ai quitté l'Équateur. Mais là, avec du recul, je regrette d'avoir quitté l'Équateur.
Mais...
j'aurais dû rester et insister.
Mais vous pouvez me décrire un peu comment fonctionne justement la loi équatorienne à ce niveau, parce que vous n'êtes pas le premier à témoigner d'un enlèvement parental hein, sur cette antenne. Et j'ai d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit hier soir, j'ai consacré un numéro dans les yeux d'Olivier sur les enlèvements parentaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visionner. Il y a très peu finalement d'accords entre les pays. Entre la France et tous ces pays. Hein. Je me rappelle d'une histoire avec le Brésil, où le papa n'a jamais pu revoir son fils, pareil. Le Japon aussi. En Europe, la Pologne, l'Arménie, toutes ces histoires d'enlèvement parentaux, généralement, le pays de la native, de la maman, parce que dans mon film, il y a une histoire d'un père grec qui enlève sa fille et la mère a pu récupérer sa petite fille handicapée à l'époque. C'est la seule histoire que j'ai pu traiter où il y a eu un dénouement heureux. Le reste, à chaque fois, le père ou la mère victime française hein, ou français s'est heurté au système qui donnait vraiment raison à la mère ou au père de nationalité qui avait emmené l'enfant sur le territoire.
En fait, l'Équateur, comme le Japon ou le Brésil, est signataire du texte qu'on appelle la Convention de la Haye. Et la Convention de la Haye précise que si un enfant est enlevé de son lieu de résidence, il doit faire l'objet d'un retour et d'une procédure de retour dans les 3 mois.
D'accord. Qu'est-ce qui a empêché ça pour Matteo, alors ?
La stratégie d'États comme le Japon ou l'Équateur, c'est de faire traîner les dossiers et de ne pas les ouvrir pour ensuite justifier, au bout d'un an, que l'enfant est adapté à son nouveau milieu et que son retour pourrait être un nouveau traumatisme pour lui.
D'accord.
Donc là, en fait, ils ont fait traîner pendant un an le dossier. 1 an et 3 mois, et le défenseur public en Équateur n'a ouvert le dossier qu'en avril 2024. Donc 1 an après ma demande.
D'accord.
Et le prétexte du défenseur public, c'était je ne peux pas défendre l'intérêt supérieur de l'enfant et Monsieur Billard, car je dois déjà défendre Madame qui a accusé Monsieur Billard de violence conjugale et de violence psychologique.
Donc il y a avant donc ce procès-là à régler en Équateur avant de régler le cas de Matteo, en fait, si j'ai bien compris.
Oui. Et en fait, le dossier a été ouvert en Équateur à partir du moment où j'ai porté plainte contre le défenseur public sur un site internet du gouvernement équatorien.
Oui.
Et où il y a eu un changement de fonctionnaire au niveau de la région de ma femme qui a ouvert le dossier.
D'accord.
Mais
ce qui voudrait dire quoi ?
Il a fallu que je dépose une plainte.
Oui, et ce qui voudrait dire quoi ? Que là, finalement, la sœur de votre ex-femme, avocate, a moins de pouvoir maintenant avec ce changement de fonctionnaire ?
Alors, elle a moins de pouvoir un peu actuellement avec le changement de fonctionnaire, et elle a moins de pouvoir aussi parce que j'ai changé d'avocat. Et mon nouvel avocat que j'ai trouvé, c'est un peu un film. J'avais trouvé une avocate qui parlait français, quoi, en Équateur.
Oui.
Mais mon avocate m'a pas défendu du tout. Je crois même qu'elle a dû donner des éléments à la sœur de ma femme à mon encontre, et qu'elle a copiné ou qu'il y a eu de la corruption ou de l'échange d'argent, je ne sais pas.
Mmh.
Et sur mon quartier, je connais une dame équatorienne à qui j'ai raconté mon histoire et qui avait ses enfants dans la même école que mon fils, et elle m'a donné les coordonnées de d'un ami de sa famille qui est avocat à Guayaquil, et c'est mon avocat depuis à peu près 8 mois, et lui il a fait avancer le dossier. En fait, il a trouvé des fautes procédurales de la sœur avocate de ma femme, qui a menti au juge. Donc il a pu prouver au juge que la sœur de ma femme avait menti. Donc actuellement, il y a une plainte pour faute procédurale, et j'ai gagné un premier procès. En fait, mais qui n'est pas lié au retour, j'ai pas vraiment gagné. En fait, ma femme, après l'enlèvement de mon enfant, son objectif, et elle me l'avait dit avant de partir, c'était d'obtenir le maximum d'argent. Elle a fait une première demande de pension alimentaire qu'elle n'a pas pu mener jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas pu payer les traducteurs et me l'a signifié via l'ambassade d'Équateur en France.
Oui.
Mais sa première demande portait sur un montant de 3500 euros par mois.
Bah dites donc, pour en plus en Équateur, 3500 euros par mois, c'est parce que je crois que le salaire moyen en Équateur n'est pas de 300 euros. Je crois, hein.
Non, plus, non, il a 700 euros. À
700
peu près.
Euros, d'accord.
Ouais.
D'accord. On va être obligé de conclure. Vincent, quel espoir vous avez aujourd'hui? Quelles sont vos chances de récupérer Matteo?
Je crois que j'ai aucune chance de récupérer Matteo. Là, pour l'instant, j'essaie de me battre pour avoir un droit de visite fixe et pour avoir mon enfant au moins une journée entière ou 2 jours ou 3 jours avec moi. Parce que depuis un an et demi, j'ai pu le voir que sur des périodes de 1 heure, 2 heures.
D'accord, vous l'avez revu quand même.
En présence de la mère.
D'accord.
Ouais, mais uniquement sous le contrôle de la maman.
Comment vous avez senti Matteo? Comment vous l'avez senti, Matteo?
De plus en plus distant. Victime de ce qu'on appelle l'aliénation parentale.
D'accord.
Et l'interférence parentale.
On a dû lui raconter plein de trucs sur
vous. Avec une maman qui l'a mis à distance de son papa et de sa grand-mère paternelle et de sa famille ici, quoi.
Quel malheur. Quel malheur. C'est vraiment un drame que vous vivez. C'est dramatique pour tout le monde. En tout cas pour Matteo, pour vous, pour votre mère. Bon, cet enfant, il aura 18 ans un jour, hein, mais qu'est-ce qu'on va lui mettre dans la tête, ça?
Non, mais ce qui est grave, c'est que c'est porté au départ par des erreurs procédurales en France. Parce que j'avais prévenu les autorités de ce risque d'enlèvement. J'avais
saisi la préfecture. Vous avez signé le passeport, vous m'avez dit hier soir en plus.
Ouais, mais je sentais qu'il risquait d'être enlevé, donc j'avais saisi la préfecture pour une demande d'opposition à la sortie de territoire. J'ai eu une réponse négative. J'avais saisi le JAF pour un bref délai avant le départ. J'ai eu une réponse négative.
Pourquoi?
Et
Pourquoi? Enfin, c'est très curieux. Pourquoi?
Bah, la lenteur judiciaire, le fait peut-être d'être un homme et d'avoir cette image de possible homme qui avait
violent.
Pu être violent alors que je n'ai jamais été, une justice lente et qui réagit pas et qui est pas suffisamment réactive. Que ça soit au niveau du JAF ou au niveau de la préfecture, puisqu'après l'enlèvement, j'ai eu le bref délai. Après l'enlèvement de mon fils, j'ai la garde de mon fils officiellement en France.
Donc,
j'ai le droit de garde.
Donc, jugement qui aurait dû parallèlement être empêcher votre femme de sortir du territoire français.
Oui, ce jugement, il aurait dû avoir lieu avant l'enlèvement.
Bien sûr.
Il a eu lieu après l'enlèvement.
C'est terrible.
Voilà. La préfecture aurait dû prendre une opposition de sortie de territoire avant l'enlèvement, et elle ne l'a pas fait. J'ai écrit, envoyé 2, 3 recommandés au préfet, je n'ai pas eu de réponse. J'ai eu des réponses de M. Macron, du cabinet de la présidence.
Qui vous disait quoi?
Bah, qu'ils allaient faire le maximum pour contacter le garde des Sceaux. Et
Matteo est français.
Matteo a la double nationalité, il est né là-bas et il est français.
Oui, il est équatorien et français.
Ouais.
vous ne sentez aucune possibilité d'arranger à l'amiable avec la mère aujourd'hui quelque chose d'aménageable ?
La maman refuse toute médiation, toute coordination.
D'accord.
J'ai offert un téléphone à mon fils.
Oui.
Avec un numéro WhatsApp. J'arrivais à le contacter depuis le 25 octobre. Elle a changé le numéro WhatsApp et j'arrive plus à le contacter. Le 25 octobre coïncide à 2 jours avant mon anniversaire et à peu près 3 semaines après qu'elle ait perdu sa demande de pension alimentaire. Parce qu'elle a fait une deuxième demande de pension alimentaire de 1 500 $. J'ai eu une audience à distance. J'ai proposé 200 $ de pension alimentaire au juge équatorien qui a accepté ma demande.
Donc, il y a une réelle volonté de vous éliminer du circuit, quoi.
Oui. Et là, j'ai plus de nouvelles de mon fils. Elle a créé une page TikTok pour mon fils. Et sur la page TikTok, je reçois des publications où elle se met en scène. Elle se met en scène en parlant d'amour. Elle met des photos d'un copain, etc. qu'elle envoie sur la page TikTok de mon fils. J'hallucine, quoi. C'est pas mon fils qui envoie des messages et tout ça, quoi. C'est madame qui envoie des messages via une page TikTok qu'elle a créée au nom de mon enfant.
Comment est-ce que vous allez ? Ça sera ma dernière question, Vincent.
Ah bah depuis un an et demi, j'ai des périodes de burn-out, de blackout, et puis des périodes où l'adrénaline monte et j'essaye de lutter et de faire avancer les choses, quoi. Mais c'est en dents de scie, quoi. C'est des moments avec et des moments sans. En tout cas, j'ai pas réussi à me dire je refais la vie, j'oublie mon fils et je passe à autre chose. J'ai pas réussi
c'est impossible d'oublier votre fils. Impossible.
Bah, je pense qu'il y a des hommes qui le font parce que il y a d'autres hommes qui ont vécu, je pense, ou d'autres femmes. Qui ont vécu des enlèvements d'enfants et qui ont pu refaire leur vie et se réinvestir avec d'autres enfants. Et d'autres conjoints, mais c'était mon fils unique. Et madame m'a appelé un jour en disant qu'elle était enceinte. Ma famille à l'époque m'a dit mais est-ce que t'es sûr que t'es le papa ? Est-ce que tu vas le reconnaître ? J'ai dit j'ai 40 ans. Ouais, je vais y aller, je vais le reconnaître, je vais assister à sa naissance, je vais le reconnaître, je vais m'occuper de lui. C'est mon fils et puis voilà quoi. Mais j'ai créé un site internet là de soutien qui s'appelle Enlèvement d'enfants, Sequestro des Niños sur Facebook. J'ai quelques soutiens, j'ai pu croiser quelques parents qui étaient dans ma situation. L'Équateur a rendu très peu de décisions favorables. S'il y a eu une décision favorable en Équateur de retour d'un enfant, mais c'est une situation particulière. C'est une Française qui s'était vue enlever son enfant par un homme étranger. Qui n'était ni équatorien ni français, et qui s'était réfugié en Équateur. Elle a pu obtenir le retour de sa fille. Mais là, il y a un espèce de truc où, comme mon fils est né en Équateur, les autorités équatoriennes et même la population équatorienne a un discours en disant « Mais votre garçon, il est en premier équatorien.
»
Comme la mère me disait et répétait à mon fils, mais Mathéo, en premier, tu appartiens à maman, quoi. C'est maman le plus important.
Tout ça est très mal engagé. Bah, écoutez, tenez-nous au courant, Vincent. Merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et n'hésitez pas, vous connaissez le chemin, si on peut reléguer votre parole à nouveau.
Si vous connaissez d'autres parents qui sont dans la même situation, si des événements sont organisés pour la journée des droits de l'enfant, moi je suis partant.
D'accord, on vous fera signe si on a des témoignages qui vont dans ce sens. Et puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles, bien évidemment. D'accord ?
D'accord, je vous remercie.
Bonsoir Vincent, je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Vous aussi, appelez Olivier Delacroix au 01 80 20 39 21.
Numéro non surtaxé, Europe 1.
Minuit 39 sur Europe 1 et nous accueillons Sabine maintenant. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Olivier, bonsoir. J'espère que ça va aller parce que je m'étais en plus endormie, figurez-vous.
Oh ma pauvre, bah écoutez, je suis désolé, il est un peu tard.
Ah ben non, c'est pas vous qui devez être désolé, c'est moi. C'était vraiment, bref. Et je suis très contente de vous entendre, comme je disais au standard auprès de Florian. Je vous écoute depuis longtemps et j'avais jamais osé parce que vous avez... des histoires qui sont tellement bouleversantes que je pensais que mon cas était vraiment trop petit pour pouvoir vous appeler. Voilà.
Il n'y a pas de cas trop petit, trop grand, moyen, vous savez Sabine. Toutes les histoires ont leur place sur cette libre antenne, comme son nom l'indique. Et je crois savoir que votre histoire n'est pas si moyenne que vous le dites, en fait. Dites-moi, parce que vous avez mis très longtemps à nous appeler.
Ah oui.
Pourtant, bon, il vous est arrivé quelque chose quand même une épreuve. Comment est-ce que vous me la raconteriez, cette épreuve ?
Eh ben, de manière chronologique, parce que je n'arrive pas à la raconter autrement. Et puis surtout, j'ai mis très longtemps à pouvoir la raconter, parce que j'ai été jusqu'à presque aujourd'hui dans un déni absolu, à ne pas vouloir voir ce qui m'était arrivé. Et c'est ce qui m'a permis de tenir, d'ailleurs, au passage.
Oui.
Et voilà, donc, comme je le racontais, j'ai un métier passionnant, bien sûr. Je fais du spectacle. Alors, il y a des gens qui vont évidemment me reconnaître, hein, bien sûr. Mais
vous êtes connu dans le monde entier. Hein.
Oui, alors, pas auprès de tout le monde.
Mais non, je veux dire, mais voilà. Vous avez vu sur tous les continents du monde.
Voilà, on a tourné effectivement des émissions et des films avec beaucoup d'émissions étrangères d'ailleurs, de chaînes étrangères, et je fais du spectacle équestre avec des bovins. Je suis cavalière aussi par passion, et j'ai eu lors de mes entraînements et notamment lors d'un dernier tournage en janvier 2022 une chute bénigne de mon animal où je suis tombée sur le dos, une chute banale comme ça m'est déjà arrivé de faire une chute de mon cheval dans ma carrière.
Oui.
Rien de catastrophique, parce que monter en équitation, que ça soit avec des beaux ou des chevaux, ça fait partie du métier de tomber. Hein.
Je ne savais pas, moi, qu'on montait des bovins. Vous montez des taureaux, en fait, hein, c'est ça ?
Eh bien, personne... Tout le monde me dit ça, mais moi non plus, je ne le savais pas avant de m'y mettre.
Mais oui, parce qu'on a l'image de, vous savez, des cow-boys, en fait, qui montent sur des bovins, mais...
Oui.
Mais c'est pas ça que vous faisiez.
Eh ben non, l'histoire, comment je me suis mise à découvrir la race des vaches, en fait, c'est suite à mon cheval de Grand Prix qui est décédé. J'ai eu un grand bouleversement ce jour-là et j'ai plus voulu monter à cheval et je me suis intéressée aux vaches et voilà, l'histoire a démarré comme ça, voilà, tout simplement. Mais bon, sans parler de l'histoire, on va revenir à l'accident, parce que sinon on va rien comprendre. Et c'était surtout pour parler laisser un message à tous ceux qui ont eu des accidents et qui laissent leur corps endommagé pour pouvoir continuer et ne jamais abandonner, parce que le corps médical est là pour nous soigner, mais ils sont tellement dans la protection que finalement on se répare, bien sûr, mais ils veulent toujours nous protéger, donc on ne peut pas aller de l'avant correctement, parce que pour aller de l'avant, faut reprendre des risques. Et ça, c'est un mot, le mot risque, c'est un mot qui n'est pas repris. Moi, suite à cette chute, on m'a transporté en hélicoptère, j'étais terrassée sur le sol.
C'est l'animal qui chute, en fait, c'est ça
Alors, non, tout simplement, il me donne un coup de dos.
Oui.
Je perds l'équilibre, mais bête, je perds l'équilibre et je tombe sur le dos, une chute la plus banale qui soit. Sauf que j'entends un craquement et je me retrouve clouée au sol,
oui,
et sans bougé du tout, de la tête aux pieds. Et là, je réalise, sans avoir fait médecine, que j'étais paralysée, que je découvre en quelques secondes, j'ai dit, mais c'est pas possible, je suis pas paralysée, c'est pas possible. Et personne n'était venu tout de suite à mon secours, puisque toute l'équipe qui travaillait avec moi me dit, oh là là, elle a fait une chute, mais bon, elle en a tellement fait, c'est pas grave, elle va se relever. Ne me voyant pas me relever, tout le monde s'est précipité et ils ont réalisé que c'était grave. Et puis voilà, je me retrouve paralysée dans un lit d'hôpital, à me faire un diagnostic de tétraparésie ou tétraplégie.
Ouais, tétraplégie, oui. C'est-à-dire que la moelle épinière est quelque part sectionnée et que vous
alors
êtes...
Non.
Non.
Elle
c'est ce qu'ils ont cru au début.
Voilà. Alors, sectionnée, je serais tétraplégie complète. Oui. Mais comme la moelle a été écrasée, ça fait que j'avais le bout des doigts gauche qui bougeait un peu.
D'accord.
Et là, c'est ce qu'ils appellent la tétraplégie incomplète. Et puis, au fur et à mesure, j'acceptais pas. J'ai pas réalisé l'accident et à l'hôpital, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué parce que il fallait tout reprendre. Le corps ne fonctionnait plus, donc on m'a mis des couches. Ça a été compliqué de dire quoi, mais n'importe quoi. Donc je pouvais parler, j'avais toute ma tête, mais j'étais devenue un sac, quoi. Qu'on trimballait de chambre en chambre quand on devait dans le service neurologique changer de chambre. C'est une sensation d'être impuissante dans son propre corps. C'est quelque chose
d'être enfermé dans son corps, c'est un peu ça?
Oui. Je pensais au scaphandre du papillon quand j'étais dans mon corps à Nancy, à l'hôpital.
Ouais.
Et je me suis dit, ce monsieur qui a écrit son livre avec un œil...
Bruno, qui est le patron d'Arte aujourd'hui, hein, c'est ça?
Ah oui, effectivement, je ne sais plus Bruno son prénom et son...
Bruno Patin ou Bruno... Je vais le retrouver, Mais
oui, vous avez une équipe qui pourra chercher...
Bruno Patino, voilà, ça me revient. Merci, Florian.
Voilà. Et moi, je l'ai retenu par le scaphandre du papillon. Mm-hmm. Et je peux vous dire que j'ai pensé à cet homme de mon lit d'hôpital en me disant, mais comment a-t-il fait
Non, il me semble que lui, c'était un virus qu'il avait attrapé, je crois.
Oui.
Quelque chose qui faisait qu'il a écrit ce livre qui a beaucoup marqué les esprits à l'époque. Hein.
Oui. Moi, je peux vous dire qu'il m'a marqué. Je peux vous dire que j'ai pensé à lui, parce que quelle que soit la pathologie, en attendant...
J'ai eu l'occasion de le croiser professionnellement, hein, puisque il était à France Télévisions, et il avait récupéré pratiquement tout. Quoi. Enfin, on sentait encore quelques gènes dans certains mouvements, ou certains mots, peut-être, mais... Il y a eu je n'ai pas lu le livre, hein, pour tout vous dire, mais comme c'était un virus, je crois que tout un travail de comment on appelle ça, de quand on fait retravailler le corps, qu'on réanime
la rééducation,
oui, pardon.
Ben évidemment, parce que moi, ça fait 2 ans, hein, donc je suis passé, je suis encore en plein, on va dire. Ce n'est pas fini parce que depuis ce janvier 2022, le chirurgien avait dit à ma famille il y a un espoir qu'elle remarche, mais si elle remarche, c'est pas avant 2 à 3 ans. Et puis moi, j'ai dit, c'est pas possible, je ne vivrai pas comme ça, je ne le souhaite pas. Mmh. Et puis bref, je me posais plus la question. Déjà, on me l'avait pas dit, c'est la famille qui avait reçu ce message, moi pas, parce qu'il fallait surtout pas me dire ça, il fallait plutôt me mentir et me laisser faire. Et j'ai eu la chance, comme tout, quand on est hospitalisé, d'être aussi entouré avec des kinés, à un moment donné, d'être transféré en centre de rééducation, parce qu'on vous explique que vous allez sortir un jour de l'hôpital pour aller en centre de rééducation, rééduquer le corps. Et c'est là où j'ai découvert le monde de l'handicap. Oui. Parce que dans un centre de rééducation, on découvre toutes sortes de handicaps, tous les gens accidentés de naissance ou d'accident, et on découvre un nouveau monde. C'est vraiment difficile parce que c'est un monde que je connaissais pas. J'étais bipède normale avant tous ces accidents. Et en découvrant à cause de mon accident, ça a été aussi compliqué dans la tête parce que je refusais de voir les problèmes des autres aussi. Oui. Pour dire non, ça n'existe pas, non, mais non, c'est trop dur là, qu'est-ce que je suis entourée de gens, mais c'est pas possible. Et c'était très dur pour les autres, hein, évidemment. Et chacun était comme ça, hein, dans les patients, et tout le monde se réparait. Les gens étaient discrets, c'était lourd pour tout le monde. Ça, voilà. Et les kinés m'ont suivi dans mon délire et dans mon déni, parce que quand ils ont vu que finalement, sans me dire « attention, vous savez, vous vous réparez, mais vous ne récupérerez pas, non, mais vous ne m'arracherez peut-être pas, puis vous ne remonterez pas, je ne vais aller, puis certainement pas faire des spectacles. » Puis j'ai dit « mais écoutez, taisez-vous, faut bosser, là, pour le moment, on en est au stade de bosser. » Alors par contre, Olivier, les gens ne se rendent pas compte du tout.
Mais non, mais je crois que personne ne peut se rendre compte de l'ampleur du travail qui vous attend quand vous devez faire ça. C'est terrible.
Parce que quand on vous transfère, moi la première fois, alors pas la première fois, je m'en souviens pas, je me souviens d'une scène où on m'a mise dans la salle de rééducation, j'étais à plusieurs jours déjà, mais il y avait un nouvel exercice à faire. Qu'est-ce que j'ai pleuré ? Et chaque nouveau exercice, finalement, je pleurais, parce que je réalisais que mon corps n'était pas, tiens, maintenant, vous allez vous mettre, je suis sur le dos, vous vous mettez sur le ventre. Mmh. Impossible de se mettre sur le ventre. La première fois qu'on se met sur les genoux, c'est pas possible. La première fois qu'on s'assoit seul, c'est pas possible. La première fois qu'on se relève seul, c'est pas possible. Enfin bon, tout ce que vous faites tous les jours, tous, les bipèdes normaux, moi j'appelle. On ne se rend pas compte. Alors évidemment, il y a du progrès. Et comme on part de rien, on part d'un lit, on part d'être sur un lit paralysé. Et puis à chaque fois, il y a un progrès. Ah bah là, c'est maintenant je peux m'asseoir. Ah bah tiens, ça maintenant je peux faire. Ah bah tiens, maintenant je peux peut-être m'habiller seul. Ah bah tiens, je peux prendre ma douche.
Oui, oui, oui. Ah voilà. Toutes ces victoires que vous avez.
C'est ça.
Oui.
Et moi, j'avais dans la tête, je vais retourner en spectacle au mois de juillet, parce que je ne peux pas rompre tous les contrats. J'avais une quinzaine de contrats dans l'année 2022. Je ne voulais pas tout annuler. Mmh. Et un de mes consultants me disait, Sabine, il faut que tu commences à téléphoner à tes clients. Il faut que tu commences à dire que tu ne peux pas honorer les spectacles. Là. Et puis, j'en ai annulé beaucoup parce que j'étais au pied du mur. Et puis, certains où j'ai dit, non, moi je vais m'entraîner, et à partir du mois de mai, quand on a eu le droit en rééducation de rentrer à la maison et de revenir à la rééducation, attention, on ne nous lâchait pas, c'était tous les jours, je me suis dit, je vais revoir mes loulous. Ça a été une épreuve, revoir ces animaux. Parce que de l'hôpital et du centre de rééducation, mes équipes m'envoyaient des vidéos, je me connectais aux caméras, je surveillais de loin comment ils vont, et puis ça c'était terrible. Donc le retour a été compliqué. J'ai eu la gueule de presque tous mes loulous, et dont ma monture principale, qui lui a mis un certain temps avant de revenir vers moi. Bon, ça a mis quelques jours, mais pour moi c'était interminable. Et puis j'ai remonté tout de suite pour savoir.
Vous avez pu remonter. Vous avez pu remonter.
Ah bah oui, j'ai remonté. J'ai demandé à mon mari, on prend une chaise, tu vas me treuiller, tu fais ce que tu veux, mais il faut que je monte mes loulous, mais Sabine, tu peux pas. Mais si, je peux. Alors il m'a monté comme il a pu avec sa force, parce que ça a été compliqué, mais pour que je me rende compte quel équilibre j'avais à cheval et à bovin et comment je... qu'est-ce que je devais travailler avec mes kinés. Donc, je n'ai pas arrêté de me filmer sur des petites vidéos de 2 minutes tous les jours. Et j'en et on montrait ça au kiné. Alors évidemment ils ont eu une réaction.
Ils ont dû vous dire que c'était fou.
Vous êtes complètement folle. Mais oui. Ils m'ont carrément dit, ils m'ont dit comme ça. Mais vous êtes complètement folle. Je lui dis oui, mais c'est pas grave. Vous êtes là pour me faire travailler. Point. Et donc ils ont vu ce qui manquait dans quel muscle. Ah ok, on comprend mieux. Ok, donc il faut travailler ça, etc. Donc ils m'ont fait on va dire un entraînement militaire, si je puis dire, parce qu'ils sont accrochés avec moi pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ils ne m'ont pas lâché, moi non plus, et j'ai continué à travailler comme j'ai pu, et j'ai refait du spectacle de manière dangereuse, soit, mais je suis rentrée en piste de nouveau avec mon loulou dès juillet 2022.
Vous êtes remontée donc, en scène, et une question. Le fait que la moelle épinière ait été écrasée, hein, c'est ce que vous m'avez dit, compressée, tout ce travail en fait que vous avez opéré, ce sont ces reconnexions, parce qu'elle n'était pas sectionnée finalement, elle était écrasée.
Non, écrasée, on est bien d'accord, parce que sectionnée, c'est fini.
C'est fini, c'est fini.
C'est fini, fini, fini.
J'ai tourné un film là-dessus qui est incroyable et qui m'a beaucoup appris de la du courage de jeunes gens qui ont eu qui sont devenus tétraplégiques du jour au lendemain.
Oui.
Parce qu'il y en a beaucoup qui plongent dans les piscines, qui se tapent la tête et qui enfin.
Oui, c'est ça. J'ai découvert ça au centre
de rééducation. Terrible. C'est terrible.
Alors ça, c'est incroyable. Je connaissais pas du tout.
Donc, dans la mer, on peut plonger dans la mer en courant, vous savez, courir là et puis plonger dans la mer et se taper contre un retour de sable, et en plus, avec le risque de se noyer, puisque plus rien ne répond, une fois que la moelle épinière est sectionnée, terrible, enfin, ce sont des choses...
Ça, on en a discuté avec des patients qui ont vécu ça.
Vous avez dû croiser des personnes qui de toute façon, savaient ça ne reviendrait pas.
Oui, tout à fait. Moi, c'est cette chance-là. Et en revenant, évidemment, je me rendais bien compte que même si j'avais refait quelques petits spectacles en juillet 2022, puis septembre 2022, je continuais la rééducation et il y avait, comme vous dites, des petites victoires à chaque fois. Ça allait de mieux en mieux. Ça a été dur. J'ai beaucoup pleuré quand même parce que c'est les douleurs, c'est H24. Ça, on n'y pense même pas, mais les douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs neuropathiques. Et les douleurs neuropathiques, c'est des sensations de brûlure. Et que j'ai au niveau des deux jambes complètes et des deux mains. Et ça, on a des traitements, j'ai un traitement très lourd, jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'arrête mon traitement, j'ai des douleurs encore pires. Et là, j'ai des douleurs non-stop, du matin, qui varie toute la journée. Donc j'en parle même plus. Maintenant, c'est pas que je suis habituée, c'est que tant pis, il faut pas en parler, il faut avancer parce que sinon on est là. Ah, oh, j'ai mal, hein, oui. J'ai mal.
En tout cas, je vous félicite vraiment pour le courage que vous avez et la force que vous avez mise dans tout ça, dans tout ce travail, parce que vous remontiez, c'est miraculeux, c'est miraculeux.
C'est ce qu'ils disent. Et puis j'ai fait deux accès. Et puis j'ai continué à avoir des soucis puisque 2022 se passe et j'arrive à faire encore derrière. J'enchaîne sur un AVC. Et bon, c'est pas grave, c'était un petit AVC. Ça n'a rien à voir avec mon métier. Et puis l'année se passe, 2023, on continue et effectivement, je refais lors d'un autre entraînement, un deuxième accident, toujours avec mon animal. Et là, je me casse le col du fémur et le fémur.
Bon. C'est malheureusement la fin de l'émission, ma chère Sabine. Donc, bravo pour tout ça. Et puis, faites attention à vous quand même, parce que...
Alors, on a une conférence à Paris cette semaine, justement, pour parler de ça et de la résilience, ce jeudi 14 novembre à 18h.
D'accord. Et
avenue Bosquet, dans les locaux de dans les locaux du MEDEF, avenue Bosquet.
D'accord, ce jeudi qui
ce jeudi à 18h.
D'accord.
Oui, dans deux jours, le 14.
Mais vous toutes et vous tous qui nous écoutez, si vous êtes... ici à Paris ou en région parisienne, ça sera l'occasion de rencontrer Sabine et puis de voir ce que c'est que la résilience, le courage